Vous êtes sur RTL.
Coupe du monde de football féminin sur RTL.
C'est donc un test réussi. Nos Bleus ES ont battu la Norvège 2-1 hier soir à Nice. C'était le deuxième match de leur mondial et ce match, il fut crispant. C'est le moins que l'on puisse dire, Sylvain Charlet.
Il aura fallu attendre la 72e minute et un pénalty transformé par Eugénie Le Sommer pour voir enfin les Françaises prendre le dessus face à de coriaces norvégiennes.
Il y a des matchs qui ne sont pas faciles et ces matchs-là, il faut savoir les gagner. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors certes, il y a eu du déchet et on n'a pas toujours réussi ce qu'on a voulu entreprendre. Peu importe la manière, j'ai envie de dire. Et en tout cas, moi, je suis fière de toute l'équipe parce qu'on a montré de belles choses et notamment du caractère pour gagner ce match.
Ce but inscrit en fin de match a permis également à Wendy Renard d'éviter de futures insomnies. 18 minutes auparavant, la patronne de la défense française avait offert aux Norvégiennes une qualification sur un but contre son camp inexplicable.
Moi, je vais assurer pour la mettre en corner et je la mets dans mon camp. Donc, c'est dommage pour moi. Dans ces situations-là, vous vous sentez seul en fait, comme une conne limite. Ça fait partie du football et c'est ça qui me permet de garder les pieds sur terre.
Passées par toutes les émotions, les Françaises ont désormais rendez-vous lundi avec le Nigeria pour valider définitivement leur billet pour les huitièmes de finale.
Et nos Françaises, elles auront donc besoin d'un simple nul pour assurer qualification et première place du groupe. Chris Froome, forfait, il ne participera pas au Tour de France. Le quadruple vainqueur s'est fracturé notamment la jambe hier. Le cycliste britannique a lourdement chuté durant un entraînement avant une étape du Dauphiné près de Roanne. Écoutez RTL, 5h02, un acte 2 du quinquennat plus vert. Hier, lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée, Édouard Philippe a promis 12 mois d'accélération écologique. Il y a urgence, dit-il. Le Premier ministre évoque même de potentiels référendums sur de grandes mesures. Alors lesquels ? Pas de détails pour l'instant, si ce n'est l'arrivée à l'Assemblée en septembre du texte contre le gaspillage. La généralisation des consignes pour les bouteilles de lait, d'eau, de jus de fruits est en marche, des bouteilles qu'il faudra rapporter au magasin. C'est une expérience qui est déjà menée dans certains supermarchés. Exemple à Marseille, tiens, dans un Monoprix où vous vous êtes rendu pour RTL, Étienne Baudu. Comment cela fonctionne ?
Ah, écoutez, le système est extrêmement simple. L'appareil compacteur, 1,80 m sur 1 m de profondeur, se trouve à l'entrée du magasin. Antoine, le directeur, donne l'exemple.
Le client vient avec ses bouteilles plastiques vides, les insère dans l'appareil, l'appareil les compacte. Et ça a duré quelques secondes.
Et en échange, le client reçoit un bon, 1 centime par bouteille. Et il peut choisir le bouton jaune pour le reverser à une association caritative ou le bouton vert pour une réduction sur son prochain ticket de caisse. Pour Antoine, il faut encourager ce type de dispositif qui permet à la fois de changer son comportement et de valoriser ses déchets plastiques. Christelle a adopté la machine depuis quelques temps déjà.
Des bouteilles de jus, des bouteilles d'eau. Enlever les bouchons, oui. Voilà, 8 centimes. C'est devenu une habitude, on le fait à chaque fois qu'on vient. Parce que c'est rigolo et puis c'est un geste pour l'environnement, surtout, avant tout. C'est pas pour les 8 centimes qu'on récupère. Hein.
Et ce système rappelle à Bernard celui de son enfance, celui de la consigne des bouteilles en verre étoilées. Et pour lui, tout simplement...
Il faudrait le rendre obligatoire. Il faudrait qu'il y ait une ordonnance gouvernementale. C'est tout le monde, c'est de la responsabilité qu'on a pour la planète vis-à-vis de l'avenir.
Un reportage d'Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Alors votre avis, après les paroles, est-ce que le gouvernement va passer aux actes ? Qu'est-ce que vous attendez après cette promesse de virage vert ? Quelles mesures de grande ampleur espérez-vous pour le bien de notre planète ? Est-ce que des mesures concrètes, là, comme les consignes sur les bouteilles en plastique, vous semblent judicieuses pour nous responsabiliser ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut agir de manière plus large, plus forte au sommet de l'État ? On en discute avec vous ce matin au 32-10. Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, a donc prononcé hier ce discours de politique générale à l'Assemblée. À retenir également une précision, l'examen de la PMA pour toutes est bien prévu dans la loi de bioéthique dès septembre. Une confirmation, maintien d'un départ à la retraite possible à 62 ans, mais il faudra définir un âge supérieur pour ceux qui veulent s'arrêter et la toucher à taux plein. Par ailleurs, autre objectif annuel affiché, la lutte contre le trafic de stupéfiants. Autre annonce, il y aura chaque année un débat asile et immigration à l'Assemblée. Et puis un chiffre, 27 milliards de baisses d'impôts pour les ménages sur ce quinquennat. Après le discours d'Edouard Philippe, les leaders de l'opposition ont pris la parole dans l'hémicycle et Jean-Luc Mélenchon est donc sorti du silence. 3 semaines après les européennes, le leader des députés insoumis le concède. La suite du combat sera, je cite, difficile, mais son mouvement ne cédera pas. Emmanuel Macron rend hommage aux sauveteurs ce matin au Sable d'Olonne en Vendée. Il présidera une cérémonie après le décès de 3 membres de la SNSM en mer la semaine passée. Ils étaient sortis secourir un pêcheur en pleine tempête. Déjà fragilisé, Jean-Dominique Sénard flatte son allié. Le nouveau patron de Renault a présidé sa première dernier AG hier et il l'assure, pas de réussite du groupe sans réussite de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi. Un geste envers le Japon, des Japonais froissés qui n'avaient pas vraiment apprécié son projet finalement avorté de fusion avec Fiat et Chrysler. Une info RTL, maintenant à 5h06. La police des polices planche en ce moment sur 264 enquêtes. Des enquêtes en nette hausse depuis la crise des ronds-points et les affrontements dans nos grandes villes. 40% d'entre elles sont bouclées. Thomas Proutot, vous avez eu accès aux chiffres pour RTL, des chiffres en perpétuelle évolution depuis l'acte 1 des Gilets jaunes.
En effet, un chiffre jamais atteint ni même approché au cours d'un mouvement social et qui augmente chaque samedi à l'issue des manifestations. Sur ces 264 enquêtes pour violences policières présumées, 113, selon nos informations, concernent des blessures graves, c'est-à-dire qu'elles ont entraîné des arrêts de travail de plus de 8 jours, la plupart provoqués par des LBD, les fameux lanceurs de balles de défense, ou des grenades de désencerclement, mais aussi par des coups de matraque ou des charges policières. Tout l'enjeu pour l'IGPN, la police des polices, c'est d'établir dans chaque dossier, si la violence a été utilisée légalement par le fonctionnaire, par exemple si la tête a été volontairement visée par un LBD, ce qui est interdit, ou si le policier effectuait du maintien de l'ordre dans les règles. 105 enquêtes sont d'ores et déjà bouclées et ont été renvoyées aux procureurs concernés sur tout le territoire. C'est à eux désormais de décider quelles plaintes sont classées sans suite et quels policiers sont renvoyés devant des tribunaux.
Thomas Proutot pour RTL. L'anesthésiste de Besançon reste libre sous contrôle judiciaire. La cour d'appel a tranché hier et elle confirme la décision prise mi-mai. Le parquet réclamait lui et pourtant un emprisonnement. Le docteur Frédéric Péchy est mis en examen pour 24 empoisonnements, dont 9 mortels. Il est soupçonné d'avoir drogué ses patients pour ensuite apparaître tel un sauveur et soigner sa réputation. À 6h15, Stéphane Jurana sera notre invité. Il est l'un des avocats des victimes présumées. Lorient en deuil, marche blanche aujourd'hui. Hier, 500 personnes, essentiellement de la communauté franco-turque, ont assisté aux obsèques du petit garçon de 10 ans, enfant tué par un chauffard le week-end passé. Son cousin de 7 ans est grièvement blessé. Malgré la diffusion de son portrait, le conducteur reste introuvable. Il fuyait avec sa passagère un contrôle routier.
RTL, BAC, J-4.
Et comme tous les matins dans cette dernière ligne droite, nous poursuivons notre série. Ce matin, nous nous intéressons à ces lycéens qui s'isolent pour fuir les distractions. C'est vrai qu'entre les copains, Roland Garros, le mondial, c'est difficile de travailler parfois. Du coup, certains se mettent au vert dans un prioré en pleine campagne en Mayenne. La session de 3 jours se termine demain. Au menu, repas pris en commun, chambre spartiate, office religieux pour ceux qui veulent et visite des profs. Marie Garrier, vous avez poussé les portes pour RTL de ce prioré de la Cotellerie.
Ils ont étalé cahiers, livres et fiches sur les tables du réfectoire ou dans les nombreuses petites pièces à disposition. Héloïse regarde autour d'elle.
C'est grand, c'est spacieux, on peut travailler au calme.
Anne-Elisabeth, qui travaille pour le diocèse de Laval, coordonne ces 3 jours de révision.
On pensait particulièrement aux jeunes pour qui c'est compliqué de travailler tout seul chez eux.
Les repas pris en commun sont préparés par les frères du prieuré.
Ils n'ont plus qu'à se mettre les pieds sous la table et à se concentrer sur le bac.
Découverte des chambres au confort spartiate.
Ça va, c'est un lit quoi.
Les uns ont été informés de cette session de révision par leur lycée, d'autres par leur paroisse. Lucie, elle, a vu l'annonce dans le journal.
Ce qui m'a surtout plu, c'était qu'il y ait des professeurs qui viennent. Comme ça, si j'ai des questions à poser, je vais pouvoir leur poser.
On commence par faire le plan de bataille. Qu'est-ce que je veux réviser ?
Prof d'éco, de philo, de maths, se relaie de 9h à 17h.
Une équation de droite, ça a toujours la même forme. Y égale A, X plus B.
Oui, c'est OK.
On est d'accord ?
Oui.
Les cloches annoncent la messe, pas d'obligation d'y aller. Les frères, eux, ont prévu de prier pour les lycéens. Claire a choisi la pension complète jusqu'à demain soir.
On est dans un autre cadre, sans avoir aussi la pression des parents.
Le prieuré est au milieu des champs. Les jeunes espèrent le retour du soleil demain pour pouvoir réviser dehors, juste dérangé par le chant des oiseaux.
Marie Garrier pour RTL avec des lycéens qui s'isolent au milieu des oiseaux pour réviser.